Yes sir, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, c'est votre animateur Jerry Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine tout le monde. Cette semaine, qui qu'on reçoit, on reçoit nul autre que la professeure en criminologie à l'Université d'Ottawa et j'ai nommé Lynn Beauchesne. Fait qu'un énorme merci à Lynn d'être venue sur le podcast nous parler de l'histoire de la drogue. Hein, on a beaucoup parlé de drogue, c'est quoi la différence entre la décriminalisation et la légalisation de la drogue. On a parlé aussi du gros problème de la crise d'opioïdes qu'il y a eu et qu'il y a encore. On a parlé, c'est ça, comment que la drogue est devenue illégale aussi, toute son histoire au grand complet. Fait que, bref, ça a été vraiment un excellent podcast. C'est sûr et certain que je vais réinviter Madame Lynn sur le podcast. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ça. Et juste avant que je vous laisse écouter le podcast, j'aimerais vous rappeler, si vous voulez m'encourager, vous aimez le podcast, vous voulez que ça continue, encore une fois, devenez membre au patreon.com/WhatsApp podcast. Il y a plein de forfaits, il y en a à 3-4 piastres, il y en a d'autres qui sont un peu plus pour vous autres. C'est pas grand-chose pour moi, ça fait toute la différence, fait que c'est ma seule source de revenus financiers. Fait que si vous aimez le podcast, je continue, allez vous abonner et ça vous permet de voir tous les podcasts d'avance, pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Ça vous permet aussi d'écouter mon podcast que j'ai avec ma blonde, qui est pixel et grotesque, qui est exclusivement disponible aux membres Patreon. Et c'est pas mal ça. Ou sinon, si vous voulez m'encourager, mais vous pouvez pas le faire de façon financière, tout support est apprécié. Juste encore une fois, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, hein, laissez un petit thumbs up. Écrivez drogue dans les commentaires. Hein, écrivez drogue dans les commentaires. Vu qu'on parle beaucoup de drogue dans ce... dans cette vidéo-là, dans ce podcast-là. Écrivez drogue dans les commentaires, laissez un petit commentaire positif, laissez un petit thumbs up, ça va être super apprécié. Allez vous abonner à mon compte Instagram, Jerralin, ou à ma page Facebook, Jerralin. Puis juste vous dire aussi que cette semaine, le 10 août, j'enregistre un podcast avec Black Tabou. Black Tabou, c'est eux autres mes invités au Comédia Fest, que ça se passe à 6h, puis c'est dans la pyramide de Sainte-Foy. Le monde de Québec va savoir de quelle place que je parle, c'est à 6h. C'est gratuit, mais je sais pas si c'est gratuit pour ceux qui ont les lunettes Comédia Fest ou gratuit pour tout le monde, je ne sais pas. Va falloir rappeler, c'est pas clair leur affaire, tabarnak. Mais bref, c'est ça, je vais recevoir Black Tabou, ça va être un peu n'importe quoi comme podcast. Je sais pas à quoi je vais m'attendre avec eux autres, mais je sais qu'on va avoir du fun, puis tout ça, ça va être dans l'humour et dans le plaisir. Fait que c'est ça, on se voit le 10 août à Pyramide de Sainte-Foy à 6h. Et, c'est ça, je pense, c'est premier arrivé, premier servi aussi. En tout cas, bref, en tout cas, appelez là-bas, vous allez bien avoir des détails, là. Ou sinon, c'est pas mal ça. Ah, j'aimerais remercier encore une fois mon team WhatsApp de cette semaine. Alex The Voice, Faux le Graveur, Laser, Marc-Antoine Laflamme, Michael Pomerleau, Monsieur Camaro, Méo pis son gros pieu Vistec, pis Steve Baudouin alias Mofo. Fait qu'un gros merci à mon team WhatsApp, un énorme merci à Lynn Beauchesne, merci à tous mes Patreons, puis sinon on se revoit le 10 août à 6h à Pyramide de Sainte-Foy. Fait que yes sir tout le monde, passez une excellente semaine et bon podcast tout le monde. Et ciao. What's up tout le monde, bienvenue au What's up podcast. Je suis super content de recevoir ma nouvelle invitée, Lynn Beauchesne, professeure en criminologie et aussi écrivaine, auteur de 4 livres. En criminologie, justement, un gros merci d'être sur le podcast. Je suis super content de te recevoir.
Ça fait plaisir.
Yes! Fait que là, j'ai lu plusieurs affaires sur qu'est-ce que tu avais écrit, puis sur où tu t'es prononcé. Fait que toi, de qu'est-ce que je comprends, t'es pour la décriminalisation de toutes les drogues à usage personnel, si j'ai bien compris.
Non. Je suis pour la légalisation.
Légalisation,
alors,
OK.
Alors, juste pour comprendre pourquoi...
Ouais, c'est ça. Là,
je suis contre la décriminalisation et pour la légalisation, puis ça, ça fait très longtemps.
OK.
C'est que la décriminalisation, ça concerne uniquement la simple possession, quand on en parle.
OK.
Et ça signifie simplement que les gens vont chercher les mêmes cochonneries sur le marché, ils s'injectent les mêmes babelles, ils sniffent les mêmes babelles, il n'y a aucun contrôle... Et, sauf que s'ils sont en possession, juste en possession, on les arrête pas.
OK.
Fait que...
Ça règle pas le problème.
Tu sais, c'est un peu... légaliser, ça, la grande différence de légaliser signifie que on contrôle le marché, on contrôle le contenu, on contrôle la qualité. Comme on a fait pour le cannabis. Le cannabis, on l'a légalisé. Donc, en termes de santé publique, pour moi... on doit redécouvrir les usages de certains produits parce que le marché noir fait en sorte que il y a beaucoup de cochonneries, n'importe quoi est coupé avec n'importe quoi, tu sais pas exactement ce que t'achètes.
Ça vient une roulette russe, le cas
ouais, et tu particulièrement les gens qui s'injectent, c'est encore plus difficile de gérer. Et c'est un peu comme dans le temps de la prohibition de l'alcool aux États-Unis. Je veux dire, les gens buvaient pas de la bière 0.5, là. Parce que tu trafiques pas de la bière 0.5. C'est gros, c'est...
Les bootleggers.
Alors, c'était soit de l'alcool hautement concentré, soit de l'alcool trafiqué. Bon, c'est sûr que les riches ont toujours les moyens de faire des passe-passe pour avoir d'autres types de produits. Mais c'est juste pour dire que tant que tu gardes un marché illégal, tu gardes des produits frelatés, tu gardes des produits concentrés parce que c'est plus payant, parce que c'est plus facile à circuler. Et là, on dit, tu sais, c'est un peu comme si on disait, ah, OK, regarde ce que ça fait l'alcool. Non, ce que ça fait l'alcool dans un contexte de prohibition. Les gens consomment n'importe quoi, il y en a qui se retrouvent à l'hôpital, tu consommes dans des très courts, t'es caché pour pas te faire prendre. C'est pas... la même chose qu'être assis à une terrasse et de prendre un verre d'alcool.
C'est ça, t'es gêné d'aller chercher de l'aide aussi.
Et donc, oui, ça aussi, c'est extrêmement important, ce que tu viens de dire. Et c'est d'autant plus important que c'est pour une santé publique que je veux légaliser, c'est-à-dire que on va retrouver les usages doux des drogues, il y en a. On va apprendre à faire de la prévention. Quelqu'un sera pas tabou d'en parler, de dire je pense que je gère mal ma consommation de cannabis ou d'alcool ou de et donc on va pouvoir mieux intervenir en santé publique. Mais là, une situation où on décriminalise uniquement la possession simple, oui, ça fait qu'on n'arrête plus les usagers et encore ça change pas ce qu'ils consomment, ça change pas les conditions d'approvisionnement, ça change pas qu'ils sont obligés de voler ou de pour avoir des revenus pour s'ils sont dépendants, ça empêche pas. Je veux dire, ça change quoi en termes de santé publique? Pas grand chose.
Parce que si on regarde maintenant qu'est-ce qui se passe, avec les années, là, ben ça fait juste de plus en plus s'empirer, là, de qu'est-ce que je comprends.
Puis le marché noir vient également avec la corruption, avec le trafic. Avec, je veux dire, avec tout, le marché illégal, il règle pas ses dettes chez le notaire, là. Je veux dire, donc, avec la violence du marché. Fait que si t'as accumulé des dettes, ça, comme, je veux dire, si tu veux travailler autrement en matière de drogue, en santé publique, il faut légaliser. Et les gens ont tendance à dire, oh, Lynn, tu veux rendre les drogues accessibles, sont déjà accessibles. Je veux dire, si quelqu'un en veut, il y en a. C'est pas les rendre... Au contraire, maintenant, pour le cannabis, par exemple, il y a un âge minimum où tu peux l'acheter. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura jamais un peu de consommation avant? Ben oui, je connais pas beaucoup de monde qui ont pris leur première bière à 18 ans, là, fait que je veux dire, il y a un peu de consommation avant. Mais il faut arrêter de dire « Ah, il faut le scénario parfait ». Sinon, on bouge pas de la situation où on est là. Non, la situation où on est là, elle empire les problèmes de santé publique, elle rend les usagers vulnérables, ça corrompt des institutions, ça crée de la corruption, ça crée de la violence. On peut-tu comme dire, oui, il va y avoir encore des personnes toxicomanes. Oui, il va y avoir encore des usagers problématiques.
Mais au moins, ils vont être encadrés, ce
oui,
monde-là.
Oui, on va gérer la situation autrement. Comme on le fait pour l'alcool. Ouais. Il y a des personnes qui ont des problèmes avec l'alcool. Je veux dire, on les fout pas en prison, là. Je veux dire, on essaie de gérer ça autrement.
Ouais. On dirait que là, ça a comme quintuplé, est-ce-tu, les problèmes, tu sais. On dirait que avec les problèmes de...
Ben, c'est-à-dire qu'il y a la crise des opioïdes qui est particulière. La crise des opioïdes, il faut faire très attention de ne pas la confondre, mais avec le reste de ce qui se passe, même si on peut pas elle a des liens.
La détacher, moi, c'est
ça. Elle vient quand même de compagnies pharmaceutiques et du milieu médical qui a beaucoup stimulé les médecins à prescrire des drogues sur la douleur. Et il faut comprendre que, tu sais, on est porté à dire méchante compagnie pharmaceutique, bon, j'ai pas de fleurs à lui donner sur la promotion qu'ils ont faite, même quand ils commençaient à voir les problèmes causés. Mais on est passé d'une période où on négligeait la douleur des gens. Je veux dire, les gens, je veux dire, peuvent vivre des douleurs pour toutes sortes de raisons, et donc on n'a pas beaucoup travaillé sur cette dimension-là de douleur qui est pas nécessairement visible, qui a toutes sortes de causes. Et là, tout d'un coup, du jour au lendemain, on s'est mis à
donner des oxycodones à tout le monde.
Dire, puis plein d'autres sortes de morphine. Puis là, à un moment donné, quand on a vu les problèmes, oups! Là, on a arrêté. Ben là, je veux dire, ces personnes-là, là, maintenant, là...
Ils sont addicts, là.
Sont dépendants, mais plus que ça. Je veux dire, je te demandais si t'avais plus de douleur depuis des mois, puis t'as retrouvé.
Ouais.
Je veux dire, t'étais bien sans douleur, là.
Ouais.
Tu sais, je veux dire, t'avais mal, je sais pas, moi, dans le dos à cause d'une vieille blessure, puis t'étais continuellement en peine quand tu te levais le matin, puis là, tout d'un coup, t'as plus de douleur, puis...
T'as plus de ce mal de...
Puis là, je veux dire, fait que c'est pas uniquement le produit. Je veux dire, ta douleur au dos est revenue, je veux dire, t'es comme retombé dans...
Ben là, il y a la charge mentale qui doit arriver avec ça. Là.
Et donc, je veux dire, on n'a pas su passer de « Oups, on va essayer de les prendre en charge autrement », prenant en compte que plusieurs sont dépendants, peut-être diminuer les doses, peut-être trouver d'autres produits. Mais pas... je trouve que ça a été brutal comment on a fait ça, ce qui fait qu'il y a des gens qui sont allés s'approvisionner sur le marché noir. Et quand il y a une demande, il y a toujours une offre. Et donc, on s'est mis à donner du fentanyl, toutes sortes d'autres opiacés. Et
par qui, ça? C'est qui ont, sont
essentiellement, les filiales. Il y a une filiale qui passerait par le Mexique. Il y a des filiales de production qui seraient en Chine et en Inde.
Du crime organisé, ça? Ou du gouvernement? Ou des pharmaceutiques? Ou...
C'est plus complexe que ça. Je dirais, il y a des laboratoires qui fabriquent des drogues synthétiques. Et ça, depuis, 20-25 ans, là, c'est assez massif comme production. Puis ils sont assez développés, ces laboratoires-là, surtout en Chine et en Inde, parce que dès qu'on interdit une drogue, on modifie une molécule, puis cette drogue-là est plus interdite, par circule sur le marché. Ensuite, il y a le dark web qui permet aisément aux vendeurs d'aller s'approvisionner là en toutes sortes de produits. Fait que ça passe par différentes façons. Par exemple, ça pourrait être toi qui t'en vas sur le dark web. C'est assez facile de rentrer sur le dark web, là. Et qui achète, je sais pas, du fentanyl, mais d'autres produits aussi stimulants, etc., pour vendre dans le quartier. Puis ça t'est livré par la poste la plupart du temps. Puis là, tu vas dans le quartier. Et le monde aime ça, aller sur le dark web pour ces raisons-là, parce que tu vis pas la violence du marché de ton vendeur, puis de... Tu sais, je veux dire, ça se passe avec des bitcoins.
Ouais.
Et puis... et les gens confondent souvent le deep web et le dark web. Parce que 95% du web, c'est du deep web, ce qui veut dire que les furteurs habituels, Google, Firefox, ont pas accès. Par exemple, à mon université, tu peux pas avoir accès aux dossiers étudiants. C'est-à-dire, c'est fermé aux furteurs habituels.
OK.
Tandis que ce qui caractérise le dark web, c'est l'anonymat des personnes, du vendeur et de l'acheteur. C'est l'anonymat des transactions avec les bitcoins ou autres monnaies numériques. Et donc, c'est beaucoup moins un risque pour le vendeur d'aller acheter ces drogues-là, parce qu'on ne sait pas qui il est, on sait pas, les adresses sont encryptées. Et donc, ça passe beaucoup par là pour... c'est pour ça que quand je dis filière mexicaine, je mets ça en gros guillemets, parce que est-ce que c'est des vendeurs mexicains qui sont sur le dark web et ben, qui l'amènent aux États-Unis? C'est difficile de suivre.
Fait que c'est de là pas mal que ça provient, le fentanyl, puis tout ça.
Le fentanyl, ben, c'est-à-dire qu'au début, il était prescrit.
Ouais,
puis,
c'est ça.
Puis, je veux dire, après ça, je veux dire, il s'est retrouvé dans la rue parce que la demande était forte.
Puis là, c'est quoi? Il essaye, mettons, de le diluer pour compenser sur d'autres affaires.
Là, après ça, tu sais, c'est toujours le vendant, puis il fait un profit, puis il vend des plus petits vendants, puis il vend.
C'est ça. Puis qu'il coupe, puis à chaque fois.
Ouais, il coupe, mais en même temps, il y a comme. Une ignorance, des fois, je dire, par exemple, on cassait des capsules de fentanyl, je veux dire, mais c'est parce que la capsule sert à la dilution lente de la drogue dans l'organisme. Si tu casses la capsule, la personne la vend, puis taf!
Ça fait d'un coup.
Je veux dire, à un moment donné, ça s'en va dans toutes les directions à ceux qui cherchent à faire de l'argent avec ça. Là. Fait que c'est pour ça que je dis, chacun souvent connaît pas l'étape plus haut. C'est, l'image que les gens ont, c'est les pyramides avec les familles.
C'est ça.
Mais c'est plus comme ça aujourd'hui.
Là, avec une hiérarchie.
Oh, ouais, puis... c'est plus comme ça. Puis,
c'est un peu chacun fait son affaire de chaque côté. Puis ça,
les gens s'imaginent aussi le dark web comment, je veux dire, c'est là que... Si le dark web, depuis 2001 surtout, les sites où on vend des drogues, sont des sites qui ressemblent à Amazon, si tu veux. Ou à, je veux dire, il y a comme des... T'as comme des onglets, vêtements, pistolets, rencontres privées. Et donc, il y a de tout, puis il y a drogue. Puis dans drogue, puis il y a... Les vendeurs sont cotés 4.5, 3.5, il y a des commentaires.
Puis ils peuvent pas... La police peut rien faire contre ça, la
génération. Non, parce que tout est anonyme. Je veux dire, quand je rentre sur le dark web, je veux dire, on bloque les provenances des...
Fait qu'ils utilisent des différents IP, genre...
Oui, puis bon, ils ont réussi à fermer Silk Road 1 à un moment donné, mais je veux dire, le mois suivant, Silk Road 2 était ouvert, je veux dire...
C'est ça, puis ils mettent...
Tu sais, c'est un peu comme paraître un vendeur dans la rue, je veux dire, il y en a un autre pour le remplacer, là, je veux dire, le quartier va se libérer, je veux dire... Fait que c'est pas... Bon... Au contraire, moi, ce pourquoi je milite pour ces sites-là, c'est pour de la réduction des méfaits, c'est-à-dire aller pénétrer les sites. Il y a des forums de discussion, ces drogues. Pénétrer les forums, montrer, partager vos savoirs. Ouais, ça, t'es mieux de le prendre avec de l'eau, ça, fais attention à ça. Ça m'aide pas.
Genre, ceux qui connaissent, des chimistes, genre, ou des intervenants.
Ou des intervenants, puis à un moment donné, parce que quand tu parles à une personne, tu sais pas si c'est en Australie ou c'est ton voisin, là. Fait que, mais, tu peux au moins entamer un dialogue qui fasse que on est plus informé, d'une part.
Diminuer les risques.
Puis d'autre part, si quelqu'un, dit, ben, je pense que j'ai besoin d'aide. Écoute, tu veux-tu qu'on fasse une rencontre à deux?
Ouais, c'est ça.
Puis le dark web permet ça dans le sens que on veut pas fermer le dark web comme tel. Parce que, par exemple, il y a des journalistes qui sont en région de guerre, ils veulent pas se faire repérer, ils envoient leurs informations sur le dark web, c'est ramassé par le poste de télévision radio.
On l'a vu beaucoup en Iran.
Ouais.
Parce que justement, le président whatever key, il fermait justement l'internet puis il rendait pas accessible aux journalistes.
Et donc ça sert aussi à des réfugiés, à des personnes qui fait que ça sert à toutes sortes de choses le dark web, dont les drogues, les pistolets, la pornographie, etc. Mais c'est bien plus que ça, le dark web. C'est un lieu d'anonymat qui sert à toutes sortes d'affaires. Fait que la police peut pas arriver puis dire « je ferme les furteurs » ou « j'empêche les furteurs de rentrer », c'est Thorne, surtout qu'on l'utilise. « J'empêche avec un furteur d'aller sur le dark web » parce que ça sert à toutes sortes de monde. Pour toutes sortes de raisons. C'est un peu comme les bitcoins, ça sert pas juste
aux arnaqueurs.
Ça sert aussi à des gens à l'étranger qui veulent envoyer de l'argent à leur famille sans passer par les banques de leur pays.
Des institutions gouvernementales.
Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouve que c'est encore plus important de dire, on peut-tu arrêter de se demander, il y a des nouvelles drogues quasiment chaque semaine, on peut-tu arrêter de se demander comment les interdire, puis de dire, hey, écoute, on va parler au monde. On va dire, écoute, ça, on l'a analysé. Il y en a des sites comme ça. Il y a Heroid, E-R-O-W-I-D.com, je pense, qui sont des médecins, des chimistes qui essaient d'analyser les drogues qui circulent puis de mettre de l'information sur leur site. Mais ils sont trop peu nombreux. Il faut pénétrer les sites et vraiment être un allié. Tu sais, la personne qui prend des drogues, peu importe, elle les prend pas pour mourir, elle les prend pour triper, elle les prend parce qu'elle sent mal.
Une douleur mentale,
physique. Et donc, je veux dire, tu peux comme intervenir là-dedans, je veux dire, avec bienveillance, puis ça va être un petit peu plus efficace que de chercher...
À faire de la répression.
Ouais, à faire de la répression.
Mais c'est ça, fait, tu milites pour ça, là, tu viens de le mettre au clair. Mais je me dis, en t'écoutant, je me disais, est-ce que le gouvernement a un meilleur œil là-dessus depuis que le cannabis a été légalisé? T'sais? Parce que là, les grosses craintes, tu sais, de tout le monde va se mettre à fumer du pot, là, il est 4 ans plus tard ou.
Non, il y a pas plus de jeunes qui fument. En fait, l'augmentation a lieu.
Non, mais ça doit avoir fait
a lieu essentiellement dans les 50 ans et plus.
Ouais.
Certains ont recommencé parce qu'il y avait un produit sécuritaire. Puis il y avait plusieurs avaient arrêté de fumer. Il y avait maintenant accès à des produits de cannabis qui se fumaient pas plus aisément. Donc, c'est surtout les 50 ans et plus qui a eu une augmentation. Puis ça, c'est sûr que ça prend du temps dans le sens que, au début, les gens avaient peur d'aller parce qu'ils disaient, je vais remettre ça sur ma carte de crédit. Si je vais aux États-Unis, après, je veux dire, ça va...
Pas qu'il y ait des données.
Je veux dire, on sait très bien que les données de carte... Je veux dire, les gens avaient des peurs légitimes. Je vais attendre qu'il y ait une succursale proche de chez nous, je vais payer comptant. Mais finalement, la COVID est venue un peu brouiller les cartes parce que, je veux dire, les gens... pas trop le choix de payer avec la carte.
Ah ouais, les SQDC, faut que tu payes avec une carte?
Non, okay. Mais ça a pris du temps avant qu'ils s'installent des SQDC un peu partout.
Ouais.
De manière à ce que tu puisses dire, je m'en vais au magasin. Donc, parce que la COVID a un peu retardé toute l'implantation. Puis la livraison par la poste, certains trouvaient ça long. Maintenant, ils ont... Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais tu peux avoir de livraison rapide, puis dans la journée, tu payes un supplément. Puis... Fait qu'à un moment donné, on a beaucoup appris sur le cannabis, sur comment les contrôles de qualité, de concentration, que c'est pas si facile que ça, les laboratoires. Mais on peut dire qu'on est le seul pays qui a légalisé le cannabis. Et les gens vont me dire, non, il y a plusieurs États américains, l'Uruguay, bien avant. Oui, mais l'Uruguay n'a pas les moyens de sa législation. Et donc, finalement... pas beaucoup à proposer en termes de produits et en termes de contrôle non plus.
Ah, fait que c'est encore le crime organisé qui contrôle
ben,
ça.
Ils ont à peu près juste des produits à fumer, ils ont pas beaucoup de... C'est que t'as trois endroits, trois modèles pour les ventes. T'as les clubs de cannabis que tu peux faire avec... tu te mets à plusieurs, mettons, une vingtaine, puis tu t'achètes un champ, puis tu cultives.
Mais c'est un genre de co-op de,
de oui, champs. Oui, mais il en existe en Espagne, il en existe en Belgique, il en existe un peu partout. Ils appellent ça les clubs de cannabis parce que on se met à plusieurs. Fait que finalement, il y en a qui sont allés voir la qualité des produits dans ces... Puis c'est pas toujours adéquat.
Ouais.
Et puis, il y a l'autre façon, mais tu peux pas t'enregistrer aux trois façons. Il y a l'autre façon... où tu peux t'enregistrer auprès de l'État, puis là, ça te donne une capacité d'aller dans les pharmacies avec une carte. Mais là, les gens, ils ont dit, là, j'ai un régime qui est pour la légalisation du cannabis, il arriverait un autre régime qui est contre. Ils ont tous les noms de ceux qui consomment du cannabis parce qu'il a fallu s'enregistrer.
Ah, ouais.
Fait que, donc, ils aimaient plus ou moins ça.
Ouais.
Fait que c'est assez compliqué, tandis que au Canada... Pour des raisons assez intéressantes, on est parti du bon pied. On a des apprentissages à faire puis tout là, mais on est parti du bon pied parce que moi je me souviens encore en 2001 quand les tribunaux ont forcé le gouvernement canadien à changer sa loi sur le cannabis pour permettre l'usage de des fins thérapeutiques. Santé Canada n'était pas content. Puis là, ça a pris des années avant. Ouais, on n'a pas encore le document, donne la permission. Puis là, on cherche encore tout ça de reprise. 6 mois à trouver des graines, t'as envie de dire, on va vous en donner, là, c'est compliqué. Mais, je veux dire, Santé Canada était très réticent à cette partie-là du cannabis pour des fins thérapeutiques. Ce qui fait que il y avait même la première formulation, il fallait que tu puisses prouver que t'allais mourir. Dans l'année qui suit, pour avoir du cannabis, c'était, en tout cas, ça a pris du temps, des recours aux tribunaux. Mais ça a eu ses avantages, pas cette période-là pour les malades, et celle-là, je la regrette, cette période-là pour les malades, mais quand les compagnies sont arrivées, et on oublie tout le temps ça, on attribue à Trudeau la légalisation, ce qui est vrai, mais les compagnies qui se sont installées pour fournir le cannabis à des fins, pour des fins thérapeutiques, sont arrivés sous Harper.
OK.
Et Santé Canada était comme content, tout le monde se plaignait que l'accès était difficile, puis que c'était compliqué les formulaires, puis que c'était... Et puis, il y a des compagnies qui ont dit, ben nous autres, on va t'arranger ça, on va faire un système qui... Ouais.
Mais là, c'était avant Justin Trudeau?
Oui, c'était sous Harper, les gens l'imaginent pas, mais... Puis là, et c'est ça que je dis, il est arrivé un contexte intéressant, c'est que Santé Canada, d'un autre côté, était content de se débarrasser de ça, mais en même temps, a dit, hey, les compagnies, là, je vais te les encadrer, qualité, contrôle, s'il y a un produit qui circule puis qui est pas correct. Puis... Fait qu'on est parti du bon pied avec toute une série de contrôles.
Mm-hmm.
Parce que Santé Canada...
T'avais encadré ça.
Oui, parce qu'elle était très réticente. Mm-hmm. Tant mieux. Je veux dire, parce que finalement, on a des contrôles de qualité. On a tout un système comme on peut avoir sur un fromage qui est pas bon au magasin, puis on fait un rappel de produits.
Mm-hmm.
On a des... Puis on a encore de l'apprentissage à faire sur certains produits et mix, mais il y a des contrôles en place, des enquêteurs... Et donc, quand le gouvernement Trudeau a annoncé qu'il allait légaliser, mais même pour des fins non thérapeutiques, ben il y avait tout un des contrôles en place sur l'industrie.
Déjà installés.
Mmh. Et il y a
une structure.
Genre, oui, ouais. Une structure qui faisait qu'on partait pas de zéro. Et donc, je veux dire, ça allait beaucoup mieux pour mettre en place les affaires. Et ce qui fait que c'est pour ça que je dis qu'on est le seul pays à avoir légalisé. Parce qu'aux États-Unis, la grande difficulté qu'ils ont, c'est que quand ils ont été forcés, eux autres aussi, pour des référendums, pour des procès, etc., de légaliser pour des fins, des usages thérapeutiques dans certains États, bon, ils ont dit correct. OK, vous avez le droit pour des fins thérapeutiques. Mais là, on connaît un peu le système médical américain. Il y a quelqu'un qui vendait à des fins thérapeutiques puis qui avait un savoir, il ouvrait sa boutique. En face, s'installait une clinique médicale qui faisait des prescriptions pour dire qu'elle en a besoin. Et puis, finalement, tout le monde se fournissait là assez aisément.
Ouais, c'est ça. Ah, j'ai mal à l'œil.
Moi, ouais, n'importe quoi. C'était très, très, très facile. Mais les États disaient, bon, ça cause pas de désordre. Personne se plaint. Ceux qui en voulaient en ont. Mais le problème qu'il y avait, c'était que il n'y avait pas de contrôle de ces produits, la qualité, les quantités, les concentrations. Oui. Mais les États se disaient, bon, il n'y a personne qui se plaint trop, là. Mais quand il y a eu des référendums qui, là, disaient, on veut une coche de plus, on veut que le produit soit accessible, même si ce n'est pas des fins thérapeutiques. Ben là, il n'y avait pas de législation aux autres, il n'y avait rien, il n'y avait pas de contrôle de qualité parce que c'était très compliqué d'implanter des contrôles parce qu'au fédéral, c'est encore prohibé même aujourd'hui aux États-Unis. Et donc, un laboratoire qui a des subventions du fédéral peut pas accepter de tester des produits qui sont encore illégaux au fédéral, sinon il va perdre ses subventions.
Oh, ouais.
Fait que c'est difficile de trouver des laboratoires. Normalement, c'est la FDA qui s'occupe d'écrire les contrôles des produits. Mais là, je veux dire, la FDA, c'est fédéral. Et dit non, c'est pas légal au fédéral. Tu peux pas t'écrire de contrôle.
Mm-hmm.
Fait que là, ce qui a fait que chaque État a développé sa législation, là, l'industrie est un peu ils ont un lobby d'installer, ils ont une organisation avec un lobby à Washington, parce qu'ils font énormément de pression sur Biden pour légaliser au niveau fédéral. Parce que là, tu sais, je veux dire, ici, coast to coast, même législation, même produit. Fait que si je fais 300 000 de ce produit-là, ben, je veux dire, je réduis mes coûts par le volume, parce que c'est les mêmes. Oui. Mais là, dans un État, l'étiquetage doit être ça. Dans un autre État, une portion, ça veut dire tant de THC.
Ils sont tous des petits pays, quasiment. Là,
oui, puis tu peux pas transporter d'un à un autre si t'as pas une compagnie de transport qui a le permis de transporter du cannabis d'un État à un autre. Fait que là, les États, on va arrêter les industriels américains veulent... Ils font, et à mon avis, dans le deuxième mandat de Biden, ça devrait se faire. Ils veulent que ce soit légal au fédéral, parce que c'est même pas légal pour des fins thérapeutiques au fédéral. Et donc, c'est très difficile pour les compagnies de compétitionner avec l'extérieur, parce que la compétition est mondiale à l'heure actuelle. Canopy quoi est installé en Europe on commence par le thérapeutique les pays un après les autres sont en train de permettre l'usage à des fins thérapeutiques mais on a déjà nos produits contrôlés parfait que si t'as pas l'espace t'as pas cultivé on peut alors le gouvernement aide une industrie comme une autre veut dire le gouvernement libéral, c'est une industrie pour laquelle il aide à l'exportation, comme n'importe quelle autre industrie, quand le pays permet l'entrée de produits à des fins thérapeutiques. Je veux dire, on a un produit avant, parce qu'il y avait des gens qui disaient « Ouais, mais à un moment donné, on va être saturé, je veux dire, les compagnies, fait que là, qu'est-ce qu'ils vont faire? » Non, on peut pas être saturé, on vend mondialement. Fait que... Puis on a des serres en Europe, je veux dire, puis là ils sont rendus plus, ils sont en train d'aller sur l'Afrique, je veux dire, il y en a en Australie, il y en a, je veux dire. Donc les Américains fatiguent beaucoup. Bon oui, ils peuvent avoir une succursale à l'étranger, ils peuvent avoir des succursales à l'étranger, mais ils sont pris dans ce filet-là où au fédéral on n'a pas légalisé.
Mais me semble que l'expérience de légaliser le pot au Canada, ça l'encourage pas justement d'aller vers justement légaliser toutes les drogues ou
vu quand même la complexité que signifie légaliser, c'est-à-dire faut apprendre sur le produit. Souvent les études ont été faites sur des produits du marché noir. Faut que tu regardes bon finalement parce que tu peux prendre la tisane de coca là, je dirais, de façon assez sécuritaire. Tu peux prendre différents produits de coca qui ont disparu parce que c'est pas ça qu'offre le marché illégal. Il y a plein de produits à redécouvrir qui sont plus doux que ce qui circule sur le marché illégal. Et parce que le marché illégal, comme je disais tout à l'heure, ça façonne aussi les produits qui circulent. Comme je disais, il circule pas de bière 0.5 pendant la prohibition. À peu près pas de vin non plus, parce que c'est des produits périssables, parce que c'est des produits moins rentables, fait que finalement, t'as les produits trafiqués puis les produits à haute concentration qui sont plus rentables. Mais l'alcool...
Ils sont simples à faire.
Alors, il y a des produits qui disparaissent. Et bien, c'est la même façon pour toutes les drogues. Je veux dire, il y avait des fumeries d'opium légalement au Canada et ailleurs au 19e. Bon, ça a disparu avec la prohibition, mais c'est juste pour dire, il y a des formes peut-être à découvrir, peut-être qu'il y en a qui vont rester, oui, ça peut être permis, mais prescrit, je dirais, si t'as besoin de telle affaire, à partir de telle concentration, je veux dire, il faut faire une redécouverte des produits. Et, tu sais, je veux dire, si on rentre maintenant dans une SQDC pour les produits du cannabis, c'est varié, c'est pas juste fumer un joint, là. Mais on a redécouvert des produits, des processus, on peut dire oui, sur certains sites web, il existait les produits, mais pas de contrôle.
Mais est-ce que au gouvernement, justement, ça les incite pas à vouloir légaliser, justement? Ou c'est que c'est trop compliqué?
Non. Ici, on arrive sur la question des conventions internationales. On est illégal en légalisant le cannabis, mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les Américains, pendant des années, avaient le contrôle sur les trois principales institutions internationales qui surveillaient si on suivait les conventions. Mais en fait, si on regarde les Américains puis le travail qu'ils faisaient, c'était beaucoup plus un outil de politique étrangère. C'est-à-dire que tu pouvais ne pas suivre les règles des conventions, mais si t'étais un ami pour nous, bon, je veux dire...
C'était malléable.
Ouais, ouais, c'était assez élastique leur affaire, mais ça pouvait être un justificatif pour envoyer l'armée en Colombie, par exemple,
ouais,
pour toutes sortes d'autres raisons, mais en utilisant le prétexte drogue.
C'est un outil politique.
Fait que c'était un outil politique et économique beaucoup plus que d'autres choses, cette présence américaine. Obama a fait beaucoup sur la question des drogues, même s'il n'en a pas beaucoup parlé, il pouvait pas. Mais il a fait beaucoup. Il a, entre autres, il a retiré beaucoup d'argent de ces trois organismes-là. Parce que quand tu contribues aux Nations Unies, tu peux... il me vient juste le mot « taguer ». Tu peux taguer certains montants. Désolé, d'anglicisme. Mais tu peux taguer certains montants en disant « Bon, je donne ce somme-là aux Nations Unies, mais j'en tague tant pour le développement, tout ça. » Et donc, les organismes de contrôle étaient en grande partie financés par les Américains. Et donc, Obama a beaucoup enlevé d'argent. Donc, à un moment donné, ils se sont retrouvés sans personnel. Il y a beaucoup de personnel à contrôle là-dedans. Ils se sont retrouvés sans grand personnel. Et donc, l'Uruguay est arrivé pendant cette période-là. Ils ont jappé les organismes de contrôle. Mais, je veux dire, l'Uruguay dit non au nom des droits de la personne. Nous, on légalise. Puis, c'est mieux pour notre population. Puis, bon. Et c'était Obama. Et là, la DEA, la Drug Enforcement Agency aux États-Unis, a dit à Obama, qu'est-ce qu'on fait? Puis Obama a dit au président de l'Uruguay, vous n'auriez pas dû faire ça, c'est pas une bonne direction. This is it. This is all.
Ouais. Fait que, ça y est, on va plus loin, là, genre.
Non, parce que lui...
Il y avait d'autres shit à gérer.
Puis il était pas contre ça non plus, là, je veux dire, mais il fallait pas... Fait qu'il a juste dit, il aurait pas dû faire ça. Mais en même temps... Moi, ce que je soupçonne, c'est une hypothèse, j'ai pas de preuve tangible, mais ce que je soupçonne, c'est que il savait que plusieurs États américains voulaient légaliser.
Et ça donc, allait dans cette direction.
Et donc, c'est comme, faites ça vite pour que, quel que soit le gouvernement après moi, l'industrie va faire en sorte qu'on reculera plus.
Va mettre la pression nécessaire.
Ouais, ouais. Et c'est ce qui est arrivé. Finalement, c'est l'industrie avec ses lobbies à Washington. Quand, à un moment donné, il y a eu, comment ça s'appelait, le procureur sous Trump.
Mike Pence?
Non, le procureur... Peu importe.
Ouais.
C'est-à-dire S, deux syllabes. Non, je ne trouverai pas. Mais, je vois son visage. Mais en tout cas, ce procureur-là est très contre la légalisation du cannabis et il voulait détricoter ce que c'était fait avant.
OK.
Et là, ça avait fait la une des journaux. Le procureur général va faire reculer les États.
Resserrer la vis,
envoyer la police, etc. Puis couper des... Puis pour que les États reculent, il va couper plein de subventions à ces États-là s'ils ne reculent pas. Puis en tout cas, c'était comme... Fait que là, les étudiants ont dit, qu'est-ce qui va arriver? Je dis, je pense qu'il va pas garder son poste longtemps.
Ah ouais.
Parce que j'ai dit, l'industrie est là. J'ai dit,
c'est ça.
Et effectivement, on a appris 2 mois après que Trump l'avait démissionné.
Ah ouais.
et en même temps, en douce, Trump a légalisé le chanvre qui n'était pas encore légal aux États-Unis. Personne n'a entendu parler, mais il a légalisé le chanvre dans le cadre
Tu peux faire l'isolation avec du chanvre. Tu sais, tu peux faire tellement plein d'affaires là, avec ça.
Tellement. En Europe, il y a déjà des industries du chanvre dans différents secteurs. Mais ici, on a le secteur alimentaire, mais on n'avait pas vraiment développé les autres secteurs. Mais aux États-Unis, c'est encore interdit.
Tu peux faire des chandails puis tout, là, tu sais, du linge.
Ouais,
là.
Mais c'est pas surtout ça qui date, en tout cas, est le gros marché. L'isolation est un gros marché. On peut faire en sorte que ça ait plusieurs propriétés similaires au caoutchouc. Et donc, ça, c'est intéressant aussi. Fait que, Il y a aussi les suppléments alimentaires, il y a aussi des produits de cosmétiques, dire, il y a toutes sortes d'affaires que tu
ben
peux...
Oui. J'aimerais ça qu'on parle de comment que c'est arrivé que le cannabis soit illégal au Canada. Comment que c'est arrivé ça, puis pourquoi qu'ils l'ont rendu illégal?
En fait, faut commencer par les États-Unis, parce que... au Canada, on n'avait jamais vu, on connaissait pas ce que c'était, mais les États-Unis l'ont interdit, on a fait la même chose.
On est des suiveurs.
Je me souviendrai toujours quand j'avais une étudiante qui m'avait dit « Je vais faire ma thèse de maîtrise sur les débats au Canada lorsqu'on a criminalisé le cannabis. » J'ai dit « Pauvre chouchoune, je permets pas de thèse de maîtrise sur 5 pages de texte. » Fait qu'il n'y a pas eu de débat, là. C'était « Ah, il y a une drogue. » Alors, faut commencer par les États-Unis pour comprendre pourquoi le cannabis a été interdit. En fait, faut même reculer à la cocaïne, puis ensuite l'héroïne. Au début, quand pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la santé publique, mais qui ont à voir avec des enjeux politiques, économiques, internationaux, entre autres le fait que la Chine avait boycotté les produits américains en 1905 parce que il trouvait que le gouvernement faisait rien pour les sévices puis le racisme que subissaient les Chinois aux États-Unis. Et certains se faisaient lyncher, c'était vrai qu'il y avait de la violence contre la population chinoise. Et un des commerces, parce que les Chinois, un coup qu'on a eu plus besoin d'eux autres, ont développé des commerces pour survivre. Il n'y avait pas dans ce temps-là le bien-être social ni le chômage. Mm-hmm. Bon, il y avait le jeu. Il y avait des activités de prostitution, bien sûr, mais il y avait... Je suis pas en train de dire que tous les Chinois étaient impliqués là-dedans, mais il faut quand même reconnaître que dans les quartiers chinois, on retrouvait souvent ces activités. Il y avait les fumeries d'opium.
Ouais, OK.
Donc, il y avait des gens qui allaient dans les quartiers chinois fumer de l'opium. Pour d'autres activités aussi, mais entre autres, fumer de l'opium. Et fumer de l'opium, à un moment donné, est devenu... parce que c'était pas le seul pays où ça se passait comme ça, est devenu le symbole du vice des Chinois. Regarde comme c'est une race complètement vicieuse. Je veux dire... ils fument l'opium. En même temps, on en prescrivait dans les bureaux de médecins, là, mais c'était fumer de l'opium qui était perçu immoral. Mm-hmm. Et surtout que les femmes allaient dans les fumeries d'opium parce qu'elles étaient interdites dans les bars. Et donc, certaines allaient se rencontrer dans les fumeries d'opium. Et ce qui était considéré encore pire, c'était que c'était des femmes qui avaient de l'argent, pour plusieurs, parce que, je veux dire, les femmes qui n'avaient pas d'argent, elles n'allaient pas dans les fumeries d'opium. Non, puis ouais. Les fumeries d'opium, il y en avait de toutes sortes. Il y en avait un peu comme il y a toutes sortes de restaurants, toutes sortes de bars. Et donc, à un moment donné, fumer de l'opium est devenu symbole de l'immoralité chinoise. Et ça justifie, tu sais, un peu comme... Les gens qui veulent justifier leur intolérance raciale vont dire, ouais, de toute façon, ces gens-là, tu vis ce qu'ils font, ou c'était bon, ben.
C'est devenu l'excuse.
Ouais, c'est devenu l'excuse, je veux dire, pour
avoir un clou à frapper dessus.
Mais. Puis, en plus, il y avait tout un discours dans les journaux sur les gens qui fréquentaient l'étranger en allant dans le quartier chinois, ça menaçait les valeurs protestantes. Bon, voilà. Fait qu'il y avait tout ce discours-là. Et pour des raisons qui ont rien à voir avec la santé publique, mais à voir avec les États-Unis qui cherchaient à rétablir leur relation avec la Chine, à faire leur place sur la scène internationale. C'est eux qui ont organisé une première conférence internationale pour interdire l'usage non médical des opiacés. Parce qu'ils se sont dit que ça va régler bien des problèmes, parce que l'Angleterre déversait des tonnes d'opium et a ouvert des centaines et des centaines de fumeries en Chine. Et c'est ça qui a donné les deux guerres d'opium, d'ailleurs, au 19e siècle, et que la Chine a perdu. Et donc, la Chine cherchait à se débarrasser de l'Angleterre qui inondait littéralement le pays d'opium.
OK. Et on parle de quelle année, ça s'est passé?
Au milieu du 19e. Okay. L'Angleterre était au milieu du 19e.
Ouais. Ça remonte à longtemps.
Était le plus gros marchand, un des plus gros marchands d'opium. Et il faut comprendre que l'opium servait pour les milieux médicaux, puis pour les fumeries d'opium, pour les. Et donc, l'Angleterre, ça finançait ses colonies. Comme les Pays-Bas étaient des plus petits joueurs, la France avait la régie de l'opium. C'était légal dans ce temps-là. La France avait une régie de l'opium et sa mission, c'était d'aider à financer les colonies en augmentant la consommation d'opium et en réduisant les industries de fabrication. Et donc, faut penser que c'était légal.
Ah ouais.
Mais en même temps qu'on s'en servait pour financer les colonies, au 18e et surtout 19e, ben là, je veux dire, à la maison, commençaient à s'ouvrir des fumeries d'opium et tout ça, puis là, je veux dire, c'était correct de le faire dans la colonie, mais, à la maison, on voulait pas de ça. Alors, il faut comprendre qu'au 18e et au 19e, bon, ça servait à financer les colonies, cette expansion du marché de l'opium, parce que, oui, ça fournissait le marché médical, mais il y avait tout un autre marché à côté, particulièrement les fumeries d'opium, mais également ensuite la morphine, puis bon, l'héroïne. Et donc, on voulait pas, dans les métropoles, des fumeries d'opium, mais on continuait le commerce dans les colonies. Et là, les Américains sont arrivés, ont fait une première rencontre à Shanghai, au début du 20e, et 1908, je crois, avec la Chine et certains autres pays pour dire on va interdire l'usage non médical d'opium. Et là, ben là, les pays, c'était comme embêtant. Je veux dire, ils étaient impliqués dans leur colonie. Tu veux pas perdre le marché qu'il y a là. Mais d'un autre côté, ils savaient que ça ferait plaisir à la population parce que, je veux dire, on voulait fermer les fumeries dans les métropoles. Fait que la première rencontre a plus ou moins bien été. Mais la deuxième rencontre, solution trouvée en 1911 à La Haye, parce que les drogues ont d'abord été interdites internationalement avant de l'être nationalement.
Mmh.
Alors, on a dit, OK, ils vont être interdits dans les pays signataires, il y avait 14, je pense, ou 15, mais on peut continuer le commerce dans les colonies, parce qu'ils sont pas signataires.
OK.
Et donc, ce qui fait que jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, le commerce a continué dans les colonies, puis il est interdit dans les métropoles. Et donc, ça a été comme ça, les premiers interdits ont été faits pour des raisons politiques, économiques, etc.
Okay,
et morales. Ouais. Ça faisait plaisir à la population, ouais. Mais c'est pas ça l'origine. L'origine, c'était vraiment les Américains qui cherchaient à faire leur place internationale. Et finalement, ce dossier-là allait faire plaisir à plusieurs gouvernements nationaux si on pouvait fermer ces fumeries-là qui dérangeaient bien du monde.
Mm-hmm.
Mais c'était pas parce que ça causait des problèmes de santé.
C'est sûr, ça n'avait pas rapport avec la santé publique.
Non.
C'était plus politique que d'autres choses.
Pour la population, c'était immoral. Ouais. Tu faisais des gains en faisant plaisir à la population. C'est vrai, on trouve ça... Bon.
Ça va chercher de la sympathie.
Ouais, ouais. Et même affaire... Bon, je raccourcis des histoires qui sont un peu plus complexes, mais même affaire pour... la cocaïne, parce que entre la réunion internationale de 1908 puis celle de 1911, les Américains ont ajouté la cocaïne. Pour des fins non médicales encore, là, parce que c'est toujours des fins non médicales que c'est interdit. Et là, la cocaïne était beaucoup associée aux États-Unis, aux Noirs. Et on disait, les Noirs, ils mettaient ça à peu près sur la même pile. Les Noirs, ils ont le jazz, puis la cocaïne, puis ils amènent le vice. Puis les gens vont écouter du jazz dans les quartiers noirs, puis ils prennent cette drogue-là, puis ça rend les Noirs violents. Puis il y a des médecins qui s'étaient prononcés dans les journaux. Oui, les Noirs deviennent extrêmement violents quand ils prennent de la cocaïne. Et puis, bon.
Stéréotype.
Fait que c'est encore là un raciste qui a...
Mm-hmm.
Puis, bien sûr, quand il arrive un événement de violence impliquant un Noir, c'est comme s'il n'y en arrivait pas avec des Blancs.
Ouais.
Je veux dire, on pense qu'il avait... consommé de la cocaïne. Puis, là, il y en a un qui sort avec deux études. Il y avait deux seules études que t'en as interdit. Il y avait une étude dans les prisons. Puis là, on disait, regardez, je veux dire, les Noirs qui consomment la cocaïne, ils deviennent criminels. C'est sûr que si t'es en prison, il y a des chances que tu rencontres des gens qui ont commis une infraction.
Ben oui.
Mais là, je veux dire, ils demandaient dans les prisons, il y en a-tu qui ont déjà consommé de la cocaïne, ce qui faisait la preuve que, regarde, t'as consommé la cocaïne.
Mais
pis...
non, ça veut rien dire.
Ben oui, ça n'a pas de sens. Puis la deuxième étude a été faite dans Harlem. Fait que là, bien entendu, t'as plus de chances d'avoir de Noirs qui consomment, puis tu as plus de chances d'avoir des gens désorganisés.
Ouais.
Parce que le gouvernement ne donnait pas de fonds, ne donnait pas de.
C'est des études qui sont faites pour. Tu sais, c'est comme s'il y avait déjà leur réponse.
C'est des études qui sont racistes.
C'est ça.
Tout simplement.
Non, mais tu sais, je vais aller faire une étude pour confirmer qu'est-ce que je pense. Tu sais.
Sauf que. Il y avait des médecins qui confirmaient dans les journaux à pleine page pour dire « Oui, on essaie d'arrêter ça, la cocaïne, les Noirs, ils sont... » Puis c'était les Noirs et la cocaïne. Puis comme si... Puis là, on disait... on parlait pas des Blancs, c'était des Noirs qui allaient corrompre des Blancs, comme c'était des Chinois qui allaient corrompre des Blancs. Mmh. Les Blancs, eux autres, ils auraient jamais
ils
fait ça
purs,
aussi.
Bon. Hein?
Fait que... Et là... Il s'est dit, bon, on va régler ce problème-là, je vais faire plaisir à la population. Je vais dire, écoute, moi, je suis le gouvernement qui a interdit l'usage non médical, fait que s'il y en a qui prennent ça en dehors des usages médicaux. Et de toute façon, il n'y a pas eu vraiment de marché illégal de cocaïne après l'interdiction, comme il y en a eu un pour l'héroïne, parce que les amphétamines sont arrivées sur le marché, puis ça a un peu remplacé. Mais donc, c'est juste pour dire que l'histoire des interdits en matière de drogue est extrêmement raciste. Et là, j'arrive au cannabis. La question, je l'ai pas oubliée, que tu m'as posée.
Ouais.
Elle est associée aux Mexicains.
Ouais, c'est ça.
Dans 4 États du Sud des États-Unis, pour remplacer la population noire suite à la fin de l'esclavage comme travailleurs, puis au Mexique, on avait beaucoup de difficultés, fait qu'il y avait une grande immigration de Mexicains pour venir travailler, pour être nourris, logés, parce qu'il y avait pas, les salaires étaient vraiment minimes.
Ouais.
Mais c'est la population mexicaine qui a essentiellement remplacé la main d'œuvre noire qui travaillait dans des conditions d'esclavage pour les fermiers. Et donc, à un moment donné, dans les années 25, il y a comme des associations de travailleurs qui ont commencé à se former pour dire, ben là, c'est pas vraiment un salaire qu'on a, là, tu sais, entre l'esclavage noir qu'il y avait avant, puis les conditions dans lesquelles on est. Et donc, finalement, ils décident de faire une première grande grève. Et pour dire, on va être mieux payé. Mais ils ont fait la première grande grève, mais c'était le crash de 29. Fait que, donc, il fallait arrêter ça assez rapidement. Et là, je veux dire, pour arrêter ces formations ouvrières qui voulaient se former en syndicat, parce que c'était les premières formations de syndicats aussi à cette période, ben on a dit, on va créer des lois qui vont nous permettre de déporter ou de mettre en prison tout Mexicain qui encourage les gens à être mieux payés, puis à s'organiser, puis... Fait que là, ils ont dit, bon, ben, ceux qui n'ont pas de papier, ceux qui peuvent pas déclarer d'adresse. Puis là, ils ont dit, hey, les Mexicains, ils consomment du cannabis. Ça ne dérangeait pas avant.
Mm-hmm.
Mais là, ils se sont dit.
Ça a été l'excuse.
Là, ils ont dit, ben, en tout cas, s'il y a des papiers pour une adresse, ils vont au moins consommer du cannabis. Je veux dire, fait que, on met, puis ceux qui consomment du cannabis. Et comme ça, ça a permis de casser les mouvements ouvriers mexicains. Et on a copié la recette pour la cocaïne. On avait une recette dans les prisons mexicaines.
Mm-hmm.
Pour montrer que les Mexicains, ils consomment du cannabis. Puis regardez, ils sont en prison.
Des études.
C'est ça. Faut dire la même chose.
Même recette.
Et ensuite, pourquoi ça s'est étendu à tous les États-Unis? Parce que c'était juste concentré dans la population mexicaine. C'était pas une drogue qui était connue aux États-Unis, même quand elle était interdite. C'est que Anslinger, qui était du bureau des drogues dangereuses, ben, il se passait plus grand chose au niveau de l'héroïne sur le marché illégal. Et, J. Edgar Hoover avait dit, écoute, son petit bureau, on va l'absorber, nous autres, au FBI, puis je sais pas pourquoi ce sera un bureau à part avec des fonds puis du personnel, on va tout. Et là, il a vu que son poste était menacé, puis son bureau, il fallait qu'il montre son utilité, puis vite. Mais là, en fouillant, il voit qu'il y a une drogue qui a été interdite dans 4 États du Sud, mais il n'y en a pas ailleurs, aux États-Unis. Personne ne connaît cette drogue-là. Fait que là, il se met à écrire, parce qu'on les a tous trouvés, les brouillons, il se met à écrire des articles journaux. À chaque fois qu'il y avait un événement non expliqué, comme, je sais pas, une jeune fille se jette par la fenêtre, puis tombe dans
le bar. Fumait du pot.
Fait que là, lui, écrivait, il se dépêchait, nous enquêtons là-dessus, parce que nous croyons que c'est cette nouvelle drogue, puis il savait écrire avec du sang, puis de la sensation, puis tout ça. Puis là, il a envoyé ça aux journaux. Les journaux aimaient ça, ce genre de nouvelles-là, ça a pogné. Fait que là, t'as eu de plus en plus de monde qui se sont mis à avoir peur du hashish, du cannabis, sans en avoir jamais vu. Mais à cause de Anslinger qui lançait ça aux journaux.
C'est fou, pareil, c'est la même recette qu'ils font encore aujourd'hui, mais avec une différente forme de plateforme ou de quoi de même.
Il a même pas fait d'études, Anslinger. Anslinger, quand il était arrivé au Congrès, il avait son sac. Puis là, il a montré tous les articles de journaux. Regardez, là, il faut faire de quoi le monde en peur.
De que lui-même a...
Que lui-même a suscité. Puis que là, dire, ça se répète. Et donc, c'est comme ça qu'on a interdit le cannabis aux États-Unis. Et le Canada a dit, « Hey, ce truc-là risque de s'en venir au Canada. » Ils l'ont interdit au Canada aussi. Alors, voilà l'interdiction du cannabis.
C'est ça, c'est du calme.
Ça n'a rien à voir avec santé publique, les personnes elles malades. Là, ça a à voir avec quelqu'un qui ne voulait pas perdre son bureau. Puis il n'a pu d'autant plus faire une campagne. Il n'a pas juste fait des articles de journaux. Il y avait plusieurs industries aux États-Unis, du coton, entre autres, parce que l'Angleterre était assez reine dans le coton avec le chanvre pour ses toiles de navire. Ça en prenait énormément. Tous les fermiers...
Ben oui, c'est vrai, ça.
Tous les fermiers en Angleterre étaient obligés d'avoir une portion de leur terrain qui cultivait du cannabis pour faire des toiles pour les navires. Puis, eux autres avaient du coton. Et ils voulaient compétitionner le chanvre. Et donc, ils voulaient pas voir que quelqu'un se lance dans le chanvre aux États-Unis. Et donc, on a... financé Anslinger, on l'a essayé. On commençait aussi à faire du papier. Et donc, les compagnies l'ont financé pour pas que ça compétitionne les autres modes, les autres façons de faire du papier. Mm-hmm. L'industrie alimentaire. Donc, finalement, il a reçu plein d'argent de l'industrie Anslinger, ce qui fait qu'il a pu faire des premières vidéos qui existaient à l'époque. Tu sais, le cinéma était naissant, puis au début du avant de voir un film, t'avais des nouvelles ou t'avais des... Fait que là, tu pouvais avoir cannabis, la nouvelle drogue, bon. Fait que... et donc, il y a eu énormément de moyens de l'industrie. C'est pas que l'industrie a initié ça, mais...
Avait tout à gagner de financer son bureau.
Pis, pas vraiment l'industrie pharmaceutique, parce que pharmaceutique, il travaillait plus sur le cannabis, ça faisait un bout, parce que d'autres drogues synthétiques étaient arrivées, mais plusieurs industries avaient peur que ça devienne un produit industriel, surtout que même Ford cherchait voir si ça pouvait pas faire
le président, ça?
Non, pardon, Ford, les voitures.
OK.
Pour voir si ça pouvait pas faire un carburant intéressant. À un moment donné, industries qui commençaient à dire, bon, c'est pas encore là, mais...
Peut-être
ça va venir, puis ça sera un concurrent. Ouais. Fait que finalement, Anslinger a reçu beaucoup de financement de l'industrie pour cette raison-là.
OK.
Fait que ces histoires, ils ont... Parce qu'il faut penser, il n'y a pas Internet, il n'y a pas les moyens de communication d'aujourd'hui, là. Il n'y a pas... Fait que finalement, mais pourquoi ça s'est répandu à travers les États-Unis? Parce que Anslinger a fait ça, mais parce qu'il a reçu énormément d'appui de l'industrie pour créer des pamphlets distribués de boîte aux lettres à boîte aux lettres, toutes sortes de moyens. Mmh. Et donc, c'est comme ça qu'a été interdit le cannabis.
Là, je vois que le temps y avance, fait que je veux aussi parler de quelque chose. Je sais pas si tu as suivi le cas, mais je sais que à Vancouver, c'est ça, si on en revient avec la crise d'opioïdes, là, à Vancouver, ils ont carrément perdu le contrôle de quasiment, je pense, des quartiers. Là, que...
Ouais, mais...
Je sais pas si tu peux m'éclaircir là-dessus.
Je suis pas de près l'évolution, mais quand même avec un œil. Il y a les frontières avec les États-Unis parce qu'ils ont commencé à être actifs aussi pour la vente là-bas, mais il faut faire attention toujours avec la partie visible. C'est-à-dire que, un exemple, si moi, je rouvrais un centre ici, pas loin de chez toi, puis je rouvrais un centre, puis je dirais toutes les personnes qui ont des problèmes de dépendance avec les opiacés, on va les aider, on va essayer de les soigner, on va leur donner du matériel propre pour s'injecter, on va...
Okay.
Là, à un moment donné, tu auras 3000 personnes dans le quartier, je veux dire, autour de... Puis là, tu diras, hey, le quartier ici, là, il y en a de la dope. Mais c'est pas ça, c'est parce que c'est là que sont les services. Fait qu'il faut faire attention, les services, à un moment donné, font en sorte que ça tient certaines clientèles autour. Également, la proximité avec les États-Unis au niveau frontalier, puis de service, etc., qui fait aussi que il y a des choses qui ont traversé plus facilement du côté de la Colombie-Britannique. Mais quand ils ont demandé de l'aide, c'était le gouvernement Harper, quand ils ont sonné l'alarme. J'ai des collègues chercheurs qui sont beaucoup plus compétents que moi sur le dossier, mais qui me disaient, avant la crise opiate, ils me disaient, on regarde les médecins prescrire, là, ça va éclater, ça.
Ah, oh, et qu'ils voyaient venir.
Ils voyaient venir. Ils disaient, ouais. C'est incroyable, les quantités, on est 5 fois plus qu'avant, je veux dire, ça va. Quand ils vont réaliser les
dommages.
Les dommages, puis qu'ils vont arrêter de prescrire, ça va être. Puis les vendeurs sont prêts pour ce moment-là.
Ah, et ouais, donc, pour les remplacer. Pis,
mais eux autres voyaient venir parce qu'ils suivaient plus ces dossiers-là.
Ouais.
Fait que, je veux dire, c'était. On n'est pas arrivé à sensibiliser les gouvernements. Puis je suis pas en train de dire. Bon. Il faut garrocher des roches à Harper, ça serait passé différemment sous d'autres gouvernements, j'en sais rien.
Mm-hmm.
Mais sauf qu'il n'y a rien qui a bougé sous le gouvernement Harper. Et même sous le gouvernement libéral, pour ça que quand tu dis, est-ce que, bon, maintenant que le cannabis, on serait prêt à d'autres choses, mais ben, il reste que pour la crise des opioïdes, ça a pris du temps avant d'agir. Puis tu sais, il est mort plus de personnes de la crise des opioïdes que de la COVID. Fait que les gens qui travaillent dans le milieu puis qui regardent l'argent qu'on a mis sur la COVID, puis eux autres qui commandent quelques dollars pour aider les personnes. Mais tu sais, c'est plus payant à aider des personnes âgées que des personnes qui sont dépendantes d'opiacés.
Parce que là, c'est ça, à Vancouver, j'ai regardé les chiffres, puis c'était environ 11 000 personnes qui étaient mortes d'overdose depuis 2016 à Vancouver.
Ah oui,
c'est juste à Vancouver.
Oui, oui. On était moins touchés dans l'Est, mais c'est à cause des réseaux et de la façon dont ça fonctionne. Mais il reste quand même que ça fait des années que des chercheurs sonnent l'alarme. Bon, moi, j'étais pas une des personnes les plus proches du dossier, là. Je veux dire, c'est des chercheurs qui me disaient, ah, on se fait pas entendre, non. Et donc, il y en avait qui voyaient venir ce qui allait arriver et qui sonnaient l'alarme, mais.
Mais ça ressemble à quoi? T'es-tu capable de me faire, mettons, un portrait de à quoi ça ressemble le problème à Vancouver d'opiacés?
Ben, il est pas particulier à Vancouver. À Vancouver, il est particulier, oui, à cause des filières qui ont accéléré, mais. Il y a aussi, et là, on est en train de mettre au jour le dossier, et j'ai pas lu les dernières nouvelles là-dessus. En Alberta, d'ailleurs, c'est la même chose aussi. C'est que des représentants des compagnies pharmaceutiques américaines sont activement venus voir des médecins un après l'autre pour augmenter les prescriptions d'opiacés, particulièrement en Colombie-Britannique et en Alberta. Peut-être ailleurs aussi, là, il y a des gens plus compétents que moi sur le dossier, mais sauf que ça l'a accéléré certainement dans ces provinces-là. Ah. Et ils ont poursuivi d'ailleurs la compagnie pharmaceutique qui fabrique les produits. Mais il reste que on peut bien poursuivre les compagnies pharmaceutiques, là, on sait qu'ils peuvent étirer la chose et qu'au bout de la ligne...
Bon, ils vont s'en sortir. Bon,
ils ont payé, là, mais tu sais... C'est sauf qu'il y a des dommages. Il y a des dommages maintenant. Puis là, je veux dire, tu peux pas laisser tomber ces personnes-là. Là. Je veux dire, maintenant, ils sont dépendantes puis de produits que pour plusieurs, ils ont commencé à prendre chez le médecin.
Ouais.
Puis que maintenant, ils prennent dans la rue. Puis en même temps, je veux dire, c'est tout ce que tu as à leur dire, écoute, on va t'aider à arrêter de consommer puis tu vas retrouver ta souffrance puis on n'a pas d'autres produits à te donner. Ça marche pas, là. Fait qu'il faut faire un usage plus intelligent des antidouleurs, plus contrôlé. Mais on a un gros problème sur les bras. Et il est certain que si tu laisses approvisionner sur le marché illégal, ben là, je dirais...
Ça trouve avec n'importe quoi.
Oui, puis c'est un peu comme c'était pendant la prohibition de l'alcool, des alcools à 80-90% qui circulaient le plus parce que plus facile à trafiquer, plus profitable.
Bien aveugle à boire.
Ben, le fentanyl... Ce trafic très bien, c'est gros comme un point. Je veux dire, je te livre un magazine, puis je dis les yeux des personnes, c'est du fentanyl. Fait que dans le magazine, je t'envoie ça par la poste. Fait que c'est très facile à trafiquer. dans toutes sortes de produits. C'est très petit. Mais c'est plus intéressant que de l'herbe de cannabis. Fait que, donc, très rapidement, les produits proposés sont beaucoup plus forts. Puis tout,
ils sont très dangereux.
Oui, et surtout sans contrôle adéquat. Fait que...
Puis c'est quoi qui est proposé justement par ces intervenants-là? C'est quoi qu'ils veulent?
Ben qu'on refasse un suivi médical en prenant en compte des raisons initiales pour lesquelles ils ont pris le produit.
On les offre un cadre aujourd'hui?
Oui, un cadre, qu'on régule le produit, puis la douleur. Là, ils écoutaient le discours des compagnies, puis le discours des compagnies, c'était comme t'augmentes la dose, c'était pas trop compliqué. Là.
Mm-hmm.
Fait que là, peut-être qu'il y a un mix de médicaments, peut-être qu'il y a un... Là, on a fonctionné à partir du discours d'une compagnie en disant, bon, on a enfin trouvé un produit contre la douleur, puis on s'est mis à prescrire ça.
Ça a fait toutes les conséquences que ça a donné.
Et donc, il va falloir retrouver un accompagnement de la douleur. Ça a l'air que ça, c'était pas la... Ça veut pas dire de plus donner du tout d'opiacés pour certaines douleurs. Je veux dire, les opiacés sont encore le meilleur contrôle. Mais un encadrement différent. Je veux dire, en tenant compte des conséquences, puis en tenant compte de... Tu sais, si... Puis en tenant compte des différences de cas, si je te disais, écoute, je vais te donner tel produit... tu vas probablement devenir dépendant pour le reste de tes jours. On va essayer de contrôler le dosage pour pas que tu vives trop d'effets négatifs parce que ça constipe, puis ça peut causer d'autres effets. Mais tu n'auras plus ta douleur qui te fait souffrir depuis des années puis qui t'empêche de vivre.
Mm-hmm.
Quel choix tu ferais?
Ben là, moi, sachant qu'est-ce qui se passe là, je pense que je prendrais ma propre chance à moi. Je pense que j'en prendrais
pas. Non, mais il y a des gens qui avaient plus de vie à cause de la douleur, là.
Ouais.
Fait qu'ils ont retrouvé une vie avec... Donc, c'est juste pour dire de... Entre dire, la douleur, je m'en occupe plus, puis les opiacés, c'est pas bon.
Mm-hmm.
C'est pas ça, l'idée. L'idée, c'est qu'on se fiait sur le discours, puis les dosages des compagnies, puis les... pour aller de l'avant... Puis là, je veux dire, c'était comme... Puis si jamais la douleur revient, on augmente la... Je veux dire, peut-être qu'on pourrait repenser la douleur, l'usage des opiacés dans ce contrôle de la douleur ou d'autres produits, mais surtout pas abandonner les personnes.
Ouais. Il y a une phrase de Manu Militari, c'est un rappeur que j'adore au bout, là, qui dit... parce que quand t'es en train de crever, tu demandes pas c'est combien, tu sais. Puis je trouve que ça veut tout dire que ça veut dire, tu sais. Puis ça, tu sais, il y a les militants, justement. Ben, les militants, les personnes les intervenants, ils parlaient de des centres
d'injection
supervisés, de ça, tu sais. Puis ça, c'est quoi, dans le fond? C'est quelqu'un qui a des problèmes, justement, de consommation.
Moi, j'aime mieux les centres de distribution d'héroïne qu'il y a en Suisse, qu'il y a en Australie, qu'il y a aux Pays-Bas, où on donne de la bonne héroïne aux gens qui sont devenus dépendants.
Okay, pas de la méthadone ou de la...
Non. Les centres d'injection supervisée, c'est tout ce qu'on peut offrir, mais c'est à cause du cadre légal actuel. On peut leur donner, une aiguille propre, vérifier que les outils d'injection sont corrects, qu'ils sont dans un endroit sécuritaire pour le faire, qu'ils peuvent prendre leur temps, puis si jamais ils ont d'autres besoins, on peut les aider. Mais c'est encore la même cochonnerie qui se met dans le bras, là. Fait que, tandis que en Suisse, puis là maintenant ça s'est répandu ailleurs, ils ont des centres où tu peux t'injecter de l'héroïne, mais on l'a fourni. Je veux dire, on s'arrange non seulement pour que t'aies de l'héroïne, mais on te donne une dose plaisir.
Veut dire quoi, une dose plaisir?
Ben, parce que souvent, les gens qui sont dépendants ont pas les moyens, tu sais, tu tombes en manque. Puis là, c'est comme si t'avais...
Fait que là, tu vas aller voler.
T'as juste les moyens d'acheter une dose pour enlever le manque.
Okay.
Mais ça fait longtemps que t'as perdu le plaisir initial...
De
prendre le produit. Fait que finalement, on te donne en d'autres termes, on te donne de la bonne dose.
OK.
Puis, on te donne aussi une dose plaisir. Puis au début, je me souviens, j'étais allé voir à Genève une clinique qui prescrivait de l'héroïne. C'est mon Dieu, c'est bien suisse. C'était comme de telle heure à telle heure, je me souviens pas les heures exactes, mais c'est comme 7h à 9h le matin, puis ensuite de telle heure le midi, puis de telle heure le soir. Puis Puis dans le fond, quand tu regardes les études évaluatives, après, cette intelligence qu'ils faisaient, c'était qu'on va te donner de la bonne héroïne, des bonnes conditions de consommation. Ensuite, on ferme. Puis ceux qui veulent rester parce que, bon, ils veulent retrouver un logement, ils veulent chercher un emploi.
Une autonomie.
Moi, oui, on va les aider. Mais ils ont dit pour ça, il faut qu'ils vivent deux jours. Si se tient que ça même gagne la nuit, c'est sûr.
C'est-à-dire,
faut qu'ils vivent deux jours. Ouais. Alors donc, on leur dit, écoute, si tu vis deux jours, on a de la bonne héroïne pour toi.
Mm-hmm.
Fait que, et effectivement...
Essayer de le reprogrammer à avoir une vie...
Oui, parce que l'héroïne, ça fait... L'Angleterre a toujours, à peu près toujours, prescrit de l'héroïne aux héroïnomanes, sans problème. Depuis, ils ont jamais... Si quelqu'un venait puis avait une dépendance, puis je veux dire, c'était le médecin qui en prescrivait puis qui le suivait. Ça a arrêté un peu dans les années 80 quand est arrivé, c'était quel gouvernement aux États-Unis qui a fait pression? Puis quand est arrivé, c'était Margaret Thatcher en Angleterre, puis aux États-Unis, c'était Bush dans ce temps-là.
OK.
Fait que, anyway, je veux dire, là, ça a été comme scandaleux. Mais ils faisaient ça depuis, mm-hmm. quoi, ils ont mis ça en place en 1925.
Est-ce qu'il envoie les bénéfices dans la société?
Il n'y avait pas de marché noir en Angleterre. Parce que, je veux dire, si tu avais développé un problème, ils te fournissaient de façon sécuritaire.
Mm-hmm.
D'ailleurs, je ne sais pas si c'est encore vrai aujourd'hui, mais dans les années 80, c'est eux autres qui avaient les plus vieux héroïnomanes. Parce que l'héroïne n'attaque pas les organes vitaux. Donc, finalement, si tu t'approvisionnes dans des conditions adéquates, mais je veux dire, le monde travaillait, le monde...
Il ne se retrouve pas dans la rue, ce monde-là.
Non, mais tu peux travailler, tu vas chercher ton héros le matin, tu en vas à l'ouvrage, tu reviens chercher le midi. Puis là, justement, la personne chemine, puis là, elle dit, c'est gossant, trop fort par jour, aller chercher... Et là, ça vient de toi en disant, on va prendre la méthadone le midi.
Ah, OK, le vouloir arrêter.
Ouais. Mais pas nécessairement arrêter, mais au début, c'est comme...
diminuer.
Ouais, au début, c'est comme, ça m'empêche de vivre des affaires que j'aime plus que ça.
Mm-hmm.
Et donc, ils prennent de la méthadone le midi. Ah, OK. Puis là, à un moment donné, tu te fais une blonde. Mm-hmm. T'as remis ta vie en place. Mais là, je veux dire, tu voudrais partir la fin de semaine avec. Ouais, parce qu'on donne juste de la méthadone. Puis ça veut dire que t'es stabilisé depuis un bout, puis que ça va bien. Mais là, c'est pas ton héros qu'on va te donner, c'est de la méthadone. Méthadone, ça fait juste tuer le manque. C'est tout. C'est un opiacé aussi, là, mais ça fait juste tuer le manque. Mais là, t'as une blonde.
Mm-hmm.
Puis là, tu te dis, ben, je trouve ça plus important, ma blonde.
T'es dans une meilleure position
donc,
dans ta vie.
Et donc, t'avances jusqu'à ce qu'il y ait d'autres choses. Tu sais, je veux dire, si t'avais une vie de merde pour faire court... Puis là, on te dit, hey, tu prends de la drogue, je te l'enlève, puis je te remets dans ta vie de merde. Veux dire,
t'as pas une base assez solide
ben
pour
oui,
être capable d'affronter
oui.
ça.
Veux dire,
t'es dans le pire moment de ta vie.
Ben oui, tandis que si t'accompagnes quelqu'un jusqu'à ce que ça devienne moins intéressant.
Puis que c'est lui-même qui fait les étapes.
C'est ça.
Ouais.
Et donc, finalement, ça faisait des années qu'il faisait ça. Et les gens, maintenant, ils ont un système en pharmacie en Angleterre. Où les gens s'en vont à la pharmacie la plus proche de chez eux, puis ils vont chercher le matin, puis ensuite ils s'en vont travailler. Fait que quand t'es stabilisé, tu peux aller chercher ta méthadone, mais aussi de l'héro, dépendant. Comme si quelqu'un, ça fait 25 ans qu'on s'en met de l'héro, ben ils vont... La personne a besoin de l'héro. Fait que chaque cas est différent. Sauf qu'ils ont remis des gens en mode d'insertion sociale. Ils se détruisent plus en consommant. Il y a un plaisir, tu sais, ils ont un plaisir qu'ils aiment, puis ils veulent pas s'en passer, puis ça, le petit 20 minutes après que t'as consommé, que t'es, non, ben, c'est tout, je veux dire, c'est pas pire que quelqu'un qui prend un verre de vin, ça le détruit pas, ça le, fait que, Et donc, ils vont cas par cas, puis c'est ça qu'on commençait à implanter les centres de prescription d'héroïne. J'aurais pas dire prescription parce que c'est pas dans le monde médical, mais d'injection d'héroïne, mais là, on la fournit de qualité. On fait une démarche avec les gens. Et ce que j'ai aimé, c'est les mesures qu'on a prises en Suisse pour les premiers programmes. On n'a pas dit « est-ce qu'ils consomment moins » comme principale mesure. On a dit « est-ce qu'il est mieux ?»
Mm-hmm.
Est-ce que sa vie est mieux organisée? Est-ce qu'il se sent mieux?
Ça part tout de là.
Donc, les mesures de bien-être qu'on appelle montraient que, je veux dire, une grande partie des gens, bon, c'est sûr, il y en a qui ont lâché, puis il y en a qui vont revenir peut-être plus tard, mais une grande partie des gens disaient « Non, je commence à organiser ma vie, mm-hmm. je me sens mieux, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé à mes parents. »
Tes là, relations commencent à se renouer.
Oui, et donc, c'est pas ça qu'on veut.
Mm.
Que les gens, ils mettent plus leur vie à risque en consommant une drogue, puis qu'ils se sentent mieux.
Mm-hmm.
Je pense que c'est ça qu'on veut. Mais si tu me dis le but, c'est d'arrêter de consommer, ben, non, le but, c'est que la personne se sente mieux puis qu'elle soit plus à risque à cause de sa consommation. Mais le but, c'est pas d'arrêter de consommer. Je veux dire,
Mais il faut que ça vienne de la personne même.
Oui, mais sauf que... Il y a un discours qui me fatigue là-dedans, dans le sens qu'on est tous dépendants de payer notre hypothèque, de notre blonde, de prendre soin d'un tel. Mm-hmm. On a toutes des dépendances qui nous tiennent en équilibre.
Ouais, c'est comme la pensée puritaine, là, genre d'être pur.
Moi, oui, je veux dire, on a... je veux dire, une vie, c'est dépendre de tes amis, de ton travail, de payer ton hypothèque, de peu importe, mais une vie, ça dépend. C'est ce qui nous connecte à l'environnement.
Ça, savoir si c'est problématique.
La question, est-ce que c'est problématique? Fait que si tu rends la consommation d'héroïne non problématique dans la vie de la personne, parce qu'elle a une dose sécuritaire, puis qu'elle recommence à fonctionner, à avoir un réseau pour travailler, ben c'est ça, je veux dire, elle, c'est ça, sa dépendance, un autre, c'est d'autres choses.
Puis cette personne-là, elle a déjà ce problème.
Oui.
Tu pourras pas l'enlever.
Mais, et c'est pour ça que je dis, quand on parlait de la crise des opioïdes, on peut-tu... Ces personnes-là, pour la plupart, qui ont commencé en milieu médical, étaient en grande douleur. On peut-tu, comme, dire, ben peut-être que pour certaines, c'est ça.
Mm-hmm.
Je veux dire... Arrêtez de penser à... Il faut toutes les arrêter de consommer des opiacés. Non, peut-être que pour un, puis pour l'autre, puis pour...
Tu le régleras pas le problème, sinon...
Mais se soucier d'abord avant tout de leur bien-être. Qu'est-ce qui serait le mieux pour leur bien-être?
Mm-hmm.
Tu sais, c'est un peu comme... Je suis tenu qu'on focalise sur les drogues. Tu sais, si moi, on me disait... ta fille bouffe... je sais pas, 20 bananes par jour, puis elle est en train de se rendre malade avec ça, ça fait un mois que ça dure. Mon premier réflexe, ça serait pas « il faut interdire les bananes ». Non, mon premier réflexe, ça serait « qu'est-ce qu'elle a, ma fille ?»
Ouais, c'est ça.
Et on oublie...
Qu'est-ce qui l'a mené à ça ?
Qu'est-ce qu'elle a, la personne ?
Ouais.
Parce qu'il y a personne qui dit « moi, mon grand rêve dans la vie, c'est de devenir toxicomane.
Mm-hmm. »
Il y a quelque chose qui les a menés à ça, puis si la question centrale pouvait être « il faudrait arrêter de prendre... » Non, c'est la question centrale pourrait être qu'est-ce qu'elle a, la personne?
Ouais.
On sera déjà dans des meilleurs questionnaires pour les stratégies.
Hey, Lynn Beauchesne, ça a été vraiment un plaisir. Gros merci. Je te laisse le mot de la fin. Y a-t-il quoi que tu aimerais plugger si le monde veut te suivre ou.
Il y a deux mondes de vocabulaire que j'entends, que j'aimerais ça qu'à la longue, ils disparaissent. Les gens qui disent le gouvernement libéral de Trudeau a légalisé le cannabis récréatif. Et le cannabis médical existait avant, mais là, c'est récréatif. Ça n'existe pas, le cannabis récréatif. Ce qui existe, c'est du cannabis, c'est à peu près les mêmes produits sur les deux marchés. Puis quand on regarde les motivations à consommer du cannabis, c'est essentiellement pour se détendre, pour relaxer, pour s'automédicamenter... pour toutes sortes de raisons, le récréatif, il occupe un petit carreau, là.
Mm-hmm.
Et je trouve que ça, c'est encore du vocabulaire moral. Mais il vient d'où, ce vocabulaire-là? C'est que lorsque des malades sont allés devant les tribunaux pour réclamer l'accès au cannabis à des fins thérapeutiques, ils ont dit « Hey, c'est pas comme les autres que c'est récréatif. Ah, ouais, nous autres, on en a besoin. »
Ouais, c'est ça.
Puis les tribunaux ont repris ce langage-là, mais surtout... Tous les gouvernements, excepté l'Uruguay et l'Alaska, tous les gouvernements qui ont légalisé le cannabis à des fins thérapeutiques avaient encore le cannabis en dehors de ces usages-là criminalisés.
Mm-hmm.
Et donc, mais c'était les mêmes produits.
Ouais.
Et donc, il devait faire une grande, grande différence entre les deux. Il y en a un qui c'est pas moral, puis l'autre, il en a besoin pour sa santé.
Mm-hmm.
Non, non, je veux dire, les gens prennent pour leur bien-être. Certains ont besoin d'un suivi médical, puis certains non.
Mm-hmm.
Puis il y en a une petite partie que se prend du fun avec les amis. Mais arrêtez avec ce discours moral de récréatif. Je veux dire, on a les données, là, on a de plus en plus de données sur les motivations à consommer, puis je veux dire, c'est pas la donnée dominante avec les amis.
Ben, le message y est lancé.
OK.
Hey, gros merci, Lynn Beauchesne.
Ça m'a fait plaisir.
Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. On se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. It's the What's Up Podcast. What's Up Podcast. What's Up Podcast. Avec Jeremy Allen. Yeah, 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 yeah. Boom, 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 boom.